c'est quelqu'un qui a une œuvre relativement courte par rapport à d'autres. Enfin, il a fait moins d'albums. Mais ça fait ça fait plus de 15 ans à peu près que je pense à Peter Iver, c'est que je me demande qui l'a tué. Et j'essaie de comprendre en fait un peu tout dans son histoire à l'apparence d'un mystère policier ou d'une enquête. Et quand on se penche sur la question, qu'on commence à accumuler des informations, on se rend compte qu'en fait, ça rejoint des thématiques plus universelles. Enfin, au-delà de savoir qui a tué Peter Iver, c'est qui était Peter Iver et quelle musique il a créée et qu'est-ce que ça signifiait. Et on mesure de plus en plus l'ampleur de l'œuvre de la personne. On découvre qu'il y a des centaines et des centaines de morceaux enregistrés qui ne sont jamais sortis. Enfin bref, c'est comme tirer le fil d'une pelote et puis petit à petit toute la pelote vient et on est stupéfait de voir ce qu'on découvre. Et je voulais mener ça comme une enquête parce que quelque part ça a été une enquête menée au fil des années, quoi, petit bout par petit bout. C'est curieux parce que justement l'histoire de Peter Iver, c'est qu'il a un pied dans le star system hollywoodien. Il essaie de travailler pour Hollywood. Il connaît quand même des gens. Il connaît Francis Ford Coppola. Donc il a ce côté un petit peu tourné vers les grands studios d'Hollywood. Et puis de l'autre côté, il est branché sur un underground vraiment solide, quoi. Avec d'un côté la scène punk de l'époque. Enfin, c'est vraiment un personnage fascinant qui est un peu là aussi à un carrefour étrange et fondamental. Et puis surtout, il a fait, enfin, je trouve que son premier album, The Night of the Blue Communion, pardonnez mon accent, ce premier album est un disque scandaleusement méconnu des 60s, quoi. C'est vraiment un objet de fascination inépuisable.